Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. On l'a tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière.
Ok.
Bonjour à vous, chers auditeurices de Radio Pays-Hérault et RPH Sud. Dans la chronique précédente, je vous avais parlé du déploiement d'une bouée océanographique, le Tipod, qui va dériver pendant 2 ans autour de l'Antarctique afin de mesurer différents paramètres de l'océan austral. Et bien aujourd'hui, nous devons à l'inverse récupérer un instrument qui a été mis à l'eau il y a 1 an par des collègues néo-zélandais. C'est un mouillage océanographique, j'explique. Un mouillage océanographique, c'est un long câble ancré sur le fond marin par un lest en acier et qui remonte verticalement dans la colonne d'eau vers la surface grâce à des flotteurs tout le long de la ligne. Dans notre cas, le lest est posé sur un fond de 160 mètres et la ligne remonte jusqu'à 30 mètres sous la surface de l'océan. Les instruments de mesure autonomes sont fixés sur le câble à différentes profondeurs afin de mesurer en continu différents paramètres océanographiques. La température et la salinité de l'eau, ses propriétés optiques et les courants marins. Ce mouillage néo-zélandais est situé sur un site très particulier. C'est une montagne sous-marine qui culmine à 150 mètres sous la surface de l'eau. Au milieu de l'océan austral qui lui a une profondeur moyenne de 2000 mètres. Donc le courant circumpolaire est particulièrement fort et turbulent tout autour de cette montagne, ce qui justifie l'intérêt scientifique d'y faire des mesures. A l'inverse de la bouée Tipod, ces mesures sont donc effectuées à un point fixe et pour une durée déterminée, en fait la durée de vie des batteries des instruments. Et les données mesurées ne peuvent pas être transmises par satellite puisque la ligne n'atteint pas la surface de l'eau pour des raisons de sécurité, notamment quand la mer est forte. Et donc, on doit impérativement récupérer régulièrement ce mouillage pour extraire les données stockées dans les mémoires des instruments, mettre des batteries neuves, faire la maintenance des instruments et remettre le mouillage à l'eau pour une nouvelle année. Pour récupérer le mouillage, on déclenche par télécommande acoustique depuis le navire un crawl-largueur situé en bas de la ligne, juste au-dessus du lest. Ainsi libérée de son lest, la ligne remonte en surface, entraînée par ses flotteurs. Merci Monsieur Archimède. Et on l'accroche avec le Zodiac pour la mettre à bord. C'est donc la manip que nous avons tenté de faire avec persévérance, mais malheureusement sans succès. Le crawl-largueur n'a jamais répondu aux interrogations acoustiques qu'on lui envoyait, alors que nous avons passé des heures à faire des allers-retours au-dessus de la position théorique du mouillage. Et nous n'avons jamais eu aucun écho de la ligne sur l'écran du sondeur du navire. Donc on a finalement conclu que le mouillage avait disparu pour une raison inconnue. Mais plus tard pendant la mission, j'ai discutais avec Thomas, l'officier de navigation, qui utilise un logiciel de repérage des traces des parcours des navires, et nous avons très probablement trouvé la cause de cette perte. Thomas, peux-tu nous expliquer comment fonctionne ton logiciel OLEX et ce qu'il nous apprend justement sur la fréquentation du site du mouillage par certains navires ?
Oui, alors on peut avoir à terre Waze pour les voitures, c'est un système de base de données partagée où en fait on a un ordinateur qui relie notre GPS et notre sondeur qui nous prend donc en continu une donnée de la profondeur sous le bateau. Il va tracer en fonction de notre route une ligne de sonde entre guillemets avec la profondeur à cet endroit Et ça, on l'enregistre et on la partage sur une base de données. Et on a accès en échange aux traces des autres navires. C'est un système qui est principalement utilisé par les navires de pêche et qui permettent donc d'étudier et de voir les fonds dans une certaine zone. Et donc là, on s'en servait pour trouver des passages autour des îles et des mouillages précis. Et on avait par exemple une mission de récupération d'un mouillage sous-marin sur un haut fond dans l'océan Austral, ce qui correspond donc à un endroit très intéressant pour la pêche dans l'océan Austral. Donc on en déduit par les traces qu'on a eues que des navires de pêche sont venus pêcher et peut-être chaluter au-dessus. Donc malheureusement, ça expliquerait aussi pourquoi on n'a pas réussi à retrouver la bouée sous-marine, parce que forcément, on n'est pas les seuls à être intéressés par ces zones de concentration de poissons, entre autres.
Donc, selon Big Brother, notre mouillage aurait été arraché et déplacé par un bateau de pêche avec filet pélagique ou chalut. Bon, de manière involontaire, évidemment. Mais c'est malheureusement assez classique de perdre des mouillages de cette manière, alors que la position des instruments sous-marins permanents est clairement signifiée dans tous les avis aux navigateurs. Bon, quelques jours après cet échec malheureux, les sourires sont réapparus à la passerelle du Persévérance, car nous avons rencontré nos premiers icebergs, comme nous l'explique maintenant Noé, le second capitaine.
Bonjour à tous, moi c'est Noé, second capitaine à bord de la Persévérance. J'ai 26 ans et ça fait maintenant un an et demi, presque deux ans que je navigue sur ce voilier. Et donc là, nous sommes le 31 janvier 2026. Ça fait maintenant 11 jours que nous sommes partis de la Nouvelle-Zélande. Nous avons parcouru un peu plus de 2200 milles. Et nous sommes à l'instant même par 70 degrés sud. Et là, à l'heure actuelle, je suis en train de faire des petits zigzags entre les icebergs que nous rencontrons à l'heure actuelle. Commence à atteindre, ça y est, les premiers icebergs, les premiers réels icebergs que nous devons éviter. La mer s'est peu à peu refroidie, on est parti par 18 degrés. Et là, à l'instant, la mer est à un peu moins de 1 degré. Elle est à moins 0,8 degrés. Tiens, attends, je vais juste...
Oui, on est en passerelle là, donc forcément, bah, tu manœuvres. Hein, donc ça explique les bruits de fond, voilà.
Et oui, c'est ça, là. À l'heure actuelle, en fait, j'ai ma carte électronique qui m'indique que je ne suis plus sur la route pour la simple et bonne raison que je suis en train d'éviter les petits growlers, les petits icebergs qui se sont décrochés des plus gros icebergs un peu plus au vent. Donc là, on a quand même 30 nœuds de vent, la mer est plutôt calme, sachant qu'on est protégé, en fait, par les gros icebergs, et donc la mer s'est calmée, mais juste avant, là, t'as pu le voir, Hervé, peut-être, hein, mais la nuit fut un peu agitée. Et là, ça fait depuis une bonne demi-heure là, que la mer est un peu plus calme. On a eu pas mal de vent sur la traversée. On ne s'attendait pas forcément à du vent du sud, mais on a eu du vent du sud, donc du vent froid, assez rapidement. On s'attendait plutôt du vent d'ouest, mais finalement, c'est le vent du sud et les dépressions qui ont pris le dessus. Et donc là, voilà, on est quand même sur le qui-vif pour faire attention aux icebergs. Mais jusqu'à présent, on a été quand même assez bien épargnés. Ça fait donc 11 jours qu'on est sous voile, on a très très peu mis le moteur grâce aux conditions de vent assez clémentes pour le bateau. Et donc on a fait des moyennes à 10 nœuds, 10-11 nœuds, donc à plus de 250 000 par jour, ce qui est vraiment, vraiment exceptionnel quand même. Et donc on se rend compte que le bateau a été bien conçu pour ces océans-là, pour ces mers assez difficiles et assez venteuses.
D'ailleurs, au niveau information météo et glace, bon, je vois que vous avez des gros moyens. Comment arrivez-vous à faire vos prévisions ?
C'est vrai que bateau à voile oblige au routage météo, en fait, précisément possible pour avoir les vents favorables d'une bonne direction pour pouvoir être le plus rapide possible. Et donc nous, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a les moyens technologiques satellitaires. On a des antennes internet qui nous permettent de demander des fichiers GRIB par mail. Donc on envoie une zone que l'on souhaite quadriller par la météo. Et ensuite on envoie ça à un institut qui nous renvoie le fichier GRIB pour la zone en question. Et donc, ces fichiers GRIB sont émis tous les 12 heures. Et donc, toutes les 12 heures, on reprend un fichier GRIB qui va nous donner la direction et la force du vent. Et donc, nous, en fonction de ces fichiers-là, on va adapter plus ou moins notre route pour essayer d'aller soit là où le vent est plus favorable ou au contraire, aller se réfugier un peu plus d'un côté ou de l'autre. Et en plus de ça, on a des images satellites aussi qui nous parviennent via une application sur tablette qui s'appelle ICC. Et donc, quotidiennement, toutes les 24 heures, pour le coup, on reçoit les cartes prévisionnelles de glace pour pouvoir, pareil, se créer notre route en fonction de la dérive de la glace et potentiellement des chemins qui se libèrent. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, en fait, on vient de passer le 70 degrés sud. Et donc là, on commence à apercevoir nos premiers gros icebergs qui bouchaient jusqu'à présent la route. Et donc depuis quelques jours, depuis 2-3 jours, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit passage pour entrer dans la mer de Ross qui s'est créée. Et donc on a adapté notre route un peu plus à l'est. Et donc là, on est tout juste à l'arrivée à cette frontière-là de cette ouverture. Et donc on est vigilant, mais pour l'instant, ça a l'air de passer.
Bon voilà, chers auditeurs, les aventures polaires ont vraiment commencé. La suite dans le prochain épisode. À bientôt.
Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
Ok. Ah, là, j'ai l'air de... Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça ?